France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Kim Jong-un est arrivé au Vietnam cette nuit. Le dirigeant nord-coréen doit y rencontrer son homologue américain Donald Trump pour un deuxième sommet, demain et après-demain, et ce, 8 mois après la première réunion. Ils tenteront de se mettre d'accord sur des engagements de Pyongyang vers l'abandon de ses programmes balistiques. Il a été jugé coupable de 5 chefs d'accusation d'abus sexuels pour des faits commis sur 2 mineurs à la fin des années 90. Le cardinal australien George Pell, 77 ans, est le trésorier du Vatican, ancien conseiller du pape François. Un jury d'un tribunal de Melbourne s'est prononcé hier après-midi. George Pell nie les faits qui lui sont reprochés. Il risque 50 ans de prison. Cette annonce intervient au lendemain du discours du pape François dans lequel il appelait à une bataille totale contre les abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique. Le groupe de Lima a de nouveau demandé hier au président vénézuélien élu Nicolas Maduro de quitter le pouvoir. Les 14 pays membres sud-américains ont toutefois écarté l'usage de la force dans cette affaire et ils ont alerté la Cour pénale internationale sur la grave situation au Venezuela. Entre report et second référendum, le Brexit se délite presque un mois avant la sortie prévue du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue donc le 29 mars prochain. Hier, le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn s'est rangé à l'idée d'un second référendum. Si les propositions alternatives du Labour pour le Brexit ne sont pas approuvées par le Parlement britannique. L'actualité française, elle est marquée par la fermeture annoncée du site de Ford à Blanquefort en Gironde d'ici la fin du mois d'août. Ford a en effet rejeté le projet de reprise présenté par le groupe belge Punch. Les syndicats y voyaient la possibilité de sauver environ 400 emplois. L'usine compte aujourd'hui 850 salariés. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dit vouloir chercher des solutions pour garantir un avenir à ce site industriel. Il fustige l'attitude indigne, selon lui, du constructeur automobile américain Ford.
Tous les jours sur France Culture à 21h, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Des archives et des musiques bien choisies, mais du temps surtout pour écouter les artistes nous parler de leurs pratiques, c'est précieux, par les temps qui courent. Cette semaine, nous aurons le plaisir d'entendre Chantala Shivalingappa, danseuse, Fanny Chiarello, romancière, Dickan Garn, musicien, Alain Villaume, photographe et la grande chorégraphe Maggie Marin.
Par les temps qui courent, du lundi au vendredi à 21h et sur franceculture.fr.
Vol de culture sur France Culture à 6h03, c'est avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Dans le cadre de la saison japonisme organisée cette année en France, on peut voir en ce moment au musée Guimet à Paris, le musée des arts asiatiques du 16e arrondissement de la capitale, 3 sculptures médiévales d'une beauté incroyable. Et on comprend qu'au Japon, ces 3 sculptures soient considérées comme des trésors nationaux. C'est la première fois que ces statuettes font le voyage en France. La présidente du musée Guimet, Sophie Macariou, est l'invitée du réveil culturel ce matin pour nous en parler. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter tôt le matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne sur franceculture.fr ou l'abonnement au podcast. À la coordination Sophie-Catherine Gallet, à la réalisation Vincent Abouchard, et la prise de son ce matin est assurée par Cédric Chatelus.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Sophie Macariou.
Bonjour.
C'est donc au Musée National des Arts Asiatiques de Paris, le musée Guimet, plus précisément dans sa majestueuse pièce, la rotonde de la bibliothèque, qu'on peut découvrir ces 3 statues millénaires japonaises. C'est la première fois qu'elles sont prêtées hors du Japon. Alors, bien sûr, vous avez intitulé cette mini-exposition « Nara, 3 trésors du bouddhisme japonais ». Nara, il faudrait tout de suite le préciser, c'est un lieu.
Nara, c'était une capitale du Japon pendant la période médiévale. Alors évidemment, le Moyen-Âge japonais, c'est pas tout à fait notre Moyen-Âge, mais en l'occurrence, les pièces qui sont présentées dans la bibliothèque, donc qui sont 3, donc exposition petite par le nom, mais pas par la qualité, évidemment. Ces 3 pièces qui sont datées entre le 9e siècle pour la plus ancienne d'entre elles, qui est un Jizo, un Bouddha, debout, et puis deux extraordinaires sculptures de gardiens qui datent de l'extrême fin du XIIe, du tout début du XIIIe siècle.
Voilà, et qui sont vraiment très impressionnantes, ces statues.
Très.
Est-ce qu'elle renvoie directement à la culture du bouddhisme au Japon?
Oui, alors absolument. Alors bien sûr, on a, je dirais, le personnage principal, en quelque sorte, le Jizo, donc le Bouddha historique, qui est une œuvre très douce, donc une sculpture qui est un petit peu inférieure à la taille réelle, enfin à la taille d'un humain, mais qui est auréolée d'une grande auréole, mais qui
cette qui représente auréole le soleil, c'est vraiment
voilà, vrai. C'est son rayonnement, c'est le rayonnement aussi de sa nature, hein, elle exprime évidemment métaphoriquement le rayonnement du Bouddha, et lui, il est d'un modelé extrêmement doux. C'est une sculpture qui est faite dans un bloc de bois, monoxyle, comme on dit, avec une carnation qui est dorée, d'un doré assez adouci. Et il est vêtu évidemment d'un vêtement qui lui couvre les jambes. Et ce modelé du plissé est extrêmement doux. Il y a une grande rondeur du visage, des membres, des bras, etc. Quelque chose de voilà, d'une immense douceur, des plis tout en arrondi, tout en délicatesse.
Qui contraste fortement avec les deux autres statues.
Voilà, alors il est encadré par deux sculptures tout à fait saisissantes, des Vajrapani, des gardiens, qui eux sont à la fois des expressions de dynamisme, presque d'une forme de violence, de fureur, qui est assez incroyablement rendue par plusieurs choses. Leur déploiement dans l'espace.
Leur regard
absolument effrayant. Ils ont des yeux qui sont traités avec des incrustations de verre. Et puis le traitement de l'anatomie qui est extrêmement emphatique. Tout à fait étonnant. Et des vêtements, à nouveau. Mais alors, les vêtements, ils ont plus cette espèce de délicatesse ronde, vous voyez. Ils ne tombent plus de façon fluide autour des corps. Mais ils sont agités par des vents violents qui semblent effectivement à la fois suivre l'anatomie, mais aussi, d'une certaine façon, exprimer une sorte de déchaînement presque intérieur de ces deux personnages qui se déploient chacun donc dans un sens différent puisqu'ils gardent les directions.
Voilà, alors c'est pas du tout zen. Hein, mais...
Pas du tout, non.
Bon, alors pour avoir quelques clés du bouddhisme au Japon, je vous propose, Sophie Macariou, je propose d'ailleurs aussi à nos amis auditeurs d'écouter un extrait d'une série consacrée à l'histoire du bouddhisme par Olivier Germain Thomas. C'était enregistré en 2004 et là, il parle de trois choses à savoir sur le bouddhisme au Japon.
Trois remarques générales d'abord. Dans les premiers siècles de son implantation au Japon, le bouddhisme japonais sera profondément marqué par le bouddhisme chinois, soit à travers la Corée, soit par un accès direct, quand des moines japonais iront en Chine chercher des enseignements, comme les pèlerins chinois d'ailleurs se rendaient en Inde pour y recueillir méthodes et textes. Le Japon, lui, découvre un bouddhisme de langue chinoise filtré par l'Empire du Milieu, même si quelques maîtres ont fait l'effort d'apprendre le sanskrit. Que de montagnes, de déserts, de mers et de siècles séparent les sermons, les règles monastiques et les spéculations inscrites dans la triple corbeille de la magnifique efflorescence du bouddhisme en terre nippone, sources chinoises qui seront peu à peu japonisées. 2. Aussi bien à l'arrivée du bouddhisme qu'aujourd'hui, les montagnes et les brumes japonaises sont emplies de kami, mots que l'on peut traduire par esprit, les kami de la nature, kami des légendes, kami des morts, qui influencent la vie et les rêves. Le Shinto, Shin, esprit, To, c'est le Tao chinois, qui veut dire la voix, est la véritable religion japonaise, avec en son centre Amaterasu, la déesse du soleil, représentée par un miroir qui le plus souvent doit demeurer caché au cœur des sanctuaires. Miroir de sa splendeur, miroir des souffles de la nature. Impossible de comprendre le Japon si l'on ne sait que les arbres, les cascades, les pierres sont pleines d'âmes. Jusqu'à l'ère Meiji, le bouddhisme et le Shinto resteront intimement mêlés. 3. Contrairement à la Chine, dont l'administration était régulièrement reprise en main par une nouvelle dynastie, le Japon est resté longtemps divisé, l'empereur ayant surtout un pouvoir honorifique. Chaque clan cherchera donc à s'appuyer sur une école du bouddhisme, ce qui rend encore plus complexe qu'ailleurs leur doctrine et leurs querelles.
Un peu plus complexe qu'ailleurs. Vous l'avez entendu, on parlait de la source chinoise japonisée dans l'art et même la croyance du bouddhisme au Japon. Sophie Makariou, comment vous réagissez à ces trois points essentiels pour comprendre le bouddhisme japonais?
Alors, je vais compliquer les choses. Il y a un petit point qui manque, il me semble, qui est la Corée. Parce que, en fait, on...
C'est ramené par les Coréens.
On ne saute pas à pieds joints de la Chine au Japon. On passe par la péninsule coréenne, qui a un rôle extrêmement important. Parce que, évidemment, elle est ce qu'on appelle le royaume ermite, va être... on va dire, va passer au bouddhisme fort tôt, dès le 6e siècle. Et en fait, le bouddhisme coréen va beaucoup, beaucoup influencer le bouddhisme japonais. C'est important de le dire, parce que souvent, on pense à l'influence dans l'autre sens. Mais en fait, la Corée est aussi l'éducatrice du Japon. Et c'est très vrai pour la sculpture. C'est notable dans cette première sculpture, la plus ancienne des trois, donc ce fameux Jizo, ce Jizo de bois, qui on sent encore la forme vraiment du morceau de bois, dans son espèce de douceur, dans le traité de ses drapés. Il y a quelque chose qui, dans sa sobriété, qui fait beaucoup penser à la sculpture coréenne, notamment la très belle sculpture de grès coréen. Vous voyez, il y a une espèce de... Je dirais, c'est à la fois, tant pis hein, pour le stéréotype, mais c'est à la fois masculin et féminin. Il y a une espèce de, comme ça, de force du volume, de solidité, puis en même temps d'extrême douceur. Et ça évoque beaucoup de choses qui nous ramènent à la Corée. Alors après, bien sûr, cette histoire du bouddhisme japonais, je dirais, c'est presque le chapitre géographiquement final de la longue route du bouddhisme qui commence évidemment en Inde, à Ceylan, qui se diffuse dans toute l'ère, dans tout le continent asiatique, et puis qui finit par arriver jusqu'à l'archipel japonais.
Mais pour revenir à ces trois trésors du bouddhisme japonais exposés au Musée National des Arts Asiatiques, c'est-à-dire votre musée, le musée Guimet, Sophie Makariou, en entendant Olivier Germain Thomas nous parler des esprits, des camistes, des arbres, le bois, à quel point c'est sacré, je me suis dit, quand on décide de sculpter sur ce bois-là, ce n'est pas par hasard non plus.
Non, tout à fait, bien sûr. Alors, il a prononcé beaucoup de mots importants. Camis, les esprits qui sont partout au Japon. Il parle du Shinto, qui est, on va dire, réputé être la religion en quelque sorte originelle, la religion du sol en quelque sorte japonais. On en revient à cette idée du sol, de l'enracinement, des esprits qui s'expriment dans les montagnes, mais aussi dans les cours d'eau, la prégnance de la nature au Japon, hein, qui est une nature dominatrice, menaçante, par le biais des catastrophes naturelles aussi, qui sont fréquentes, qui ont été fréquentes tout au long de l'histoire du Japon. Et ces catastrophes, évidemment, elles doivent alimenter en particulier cette multiplication des esprits et des kami. Et tout ça se mêle, en fait, dans le bouddhisme japonais, qui n'est pas très éloigné, qui n'évite pas non plus le shintoïsme. Bien sûr, le recours au bois, vous avez tout à fait raison, il est chargé de tout ça. On est dans une société ancienne, on ne travaille pas avec des matériaux, je dirais, qui sont des matériaux neutres, ils sont chargés d'esprit. Et le bois, il est chargé d'esprit, évidemment. Alors c'est très fort dans la sculpture du Jizo, parce qu'encore une fois, il y a cet effet de bloc qui est très frappant. Alors que quand on arrive sur les sculptures des deux gardiens, ces deux extraordinaires pièces qui, elles, se déploient dans l'espace... On s'est abstrait, en fait, d'une certaine façon, de la prégnance du bois qui commande la forme et qui, d'une certaine façon, peut-être emprisonne l'esprit, puisqu'on a inventé une autre technique de sculpture qui est un assemblage extrêmement sophistiqué qui permet de se dégager de la forme du tronc, tout simplement, pour pouvoir complètement se déployer dans l'espace. Et c'est le contraste frappant qu'offre la sculpture du 9e siècle, le Bouddha qui est au milieu.
Jizo, donc.
Voilà, le Jizo. Et au contraire, les deux gardiens qui se déploient complètement dans l'espace, parce qu'ils sont réassemblés dans un assemblage de morceaux de bois absolument inouï, qui n'est même pas discernable en fait. On ne voit pas les traces de l'assemblage, parce que ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que ces sculptures, évidemment, elles sont peintes. Et donc, elles ont toute une couverture d'abord de toile de chanvre qui recouvre les assemblages et au-dessus...
Mais quel assemblage, Sophie Macaire?
Alors, en fait, c'est un assemblage à tenons et mortaises, hein, comme on dirait pour des meubles, donc qui permet évidemment, sans clous ni vis, de solidifier ensemble des morceaux de bois et de créer une sorte de jeu de construction extrêmement savant que vous allez ensuite couvrir donc d'une toile de chanvre, puis d'un après, puis de peinture. Et donc, vous allez pouvoir créer ces extraordinaires anatomies qui se déploient dans l'espace.
Et c'est très extraordinaire, mais on va en parler. On va vraiment les décrire, ces statues, parce qu'on voit tous les détails, les veines, les muscles, le regard, les expressions. Oui. Tout ça, c'est très réaliste, on peut le dire, tout en étant suffisamment étrange pour installer tout de suite un malaise ou une mélanger à de la fascination. Mais la seule question que je voulais vous poser, est-ce que c'est vous qui avez choisi cet assemblage des trois statues?
Oui, alors ça a été un long processus de discussion, comme vous imaginez, parce qu'on a mis plus de 4 ans à négocier ce prêt. Parce qu'encore une fois, je veux dire, c'est faire sortir du Japon des pièces tout à fait extraordinaires. Ces pièces ne sont jamais sorties de ce temple de Nara, le Kofukuji, dont il faut quand même dire le nom, qui a été un grand temple, je dirais, le mémorial d'une grande famille, les Fujiwara, qui en fait gouvernait l'archipel japonais pendant la période de Kamakura, donc on va dire en gros pendant une bonne partie du Moyen-Âge japonais. Donc une négociation très compliquée. Il faut mesurer que ces pièces, elles appartiennent donc encore à ce temple. Elles sont à la fois des œuvres d'art, bien sûr, mais je dirais elles sont encore perçues comme étant actives. Ce sont des œuvres qui sont toujours chargées religieusement. Donc évidemment, on ne fait pas voyager des pièces qui ne sont plus que des œuvres d'art. Donc vous voyez, il y a une dimension spirituelle qui est extrêmement forte. C'était pour ça aussi que c'était important pour nous de les installer dans la rotonde de la bibliothèque du musée. J'y reviendrai. Et puis, on a eu beaucoup d'hésitations. On avait pensé à une sculpture très très célèbre, hein, du 8e siècle, une pièce magnifique en laque sèche, tout à fait extraordinaire, mais qui est extrêmement fragile. Donc on a réajusté les listes de prêts, et puis on a décidé, voilà, qu'on se centrerait sur cette triade d'œuvres tout à fait extraordinaire.
Le Gizo et les deux gardiens.
Voilà.
Parce que ça représente quelque chose pour vous, ça devrait raconter
oui,
quelque chose pour vous, Sophie
Macaire. Oui, absolument. Alors, dans le monde asiatique, en fait, il y a le monde bouddhique, il y a 5 directions. Et non pas 4, parce que le centre est une direction. Les sculptures bouddhiques servent aussi à représenter d'une certaine façon l'espace. Ça peut être ce qu'on appelle des jinas, donc des marqueurs de direction. Et on va créer des mandalas, des sortes de représentations du monde, des cosmogrammes si on veut, qui peuvent être des peintures, mais qui peuvent être aussi des assemblages de sculptures. Donc en fait, le Jizo, il est en général au centre. Et puis, vous avez toujours des marqueurs des directions. Mais vous pouvez avoir plus que 5 sculptures. Mais en tout cas, vous retrouverez ces 4 gardiens des directions et souvent un Bouddha au centre. Donc, vous voyez, là, on n'en a que 3, mais on a un bout de la représentation d'un espace, je dirais, religieux.
We'll be right back.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Sophie Macariou qui dirige le musée Guimet. Et en ce moment, on peut voir justement ces trois trésors, ces trois statues, ces trois chefs-d'œuvre de la sculpture japonaise médiévale chez vous, dans la bibliothèque du musée. Et s'il fallait décrire les deux gardiens ou bien le Jizo, on a l'impression que tout est très bien détaillé, c'est-à-dire l'anatomie même est représentée d'une façon réaliste, stupéfiante.
Oui, alors le Jizo, d'abord il est frontal, c'est un personnage rond, qui surmonte donc un très très beau lotus, hein, qui est donc un emblème bouddhique. Il est sommé par cette extraordinaire auréole, qui est une auréole de remplacement, mais il avait bien une auréole dès le départ.
Comme ça, en forme de soleil.
Voilà, avec... en forme de soleil, absolument. Il peut y avoir des compositions assez étonnantes, puisqu'on a parfois plusieurs bodhisattvas représentés avec, comme ça, démultiplier les auréoles, ce qui est évidemment très frappant.
Voilà,
et quand on passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire de la sculpture du Jizo aux deux gardiens, on trouve des points communs, par exemple la précision dans la description du vêtement, l'utilisation bien sûr de la couleur, la poudre d'or pour le Jizo, une peinture rouge, mais aussi des éléments qui sont travaillés en relief, pas seulement par le biais de sculpture, mais par le biais en fait d'une sorte, si vous voulez, d'enduit qui permet de rehausser, hein, d'apporter des éléments, par exemple de traduire le fait que le tissu précieux dont le corps du Jizo est drapé est un tissu avec des effets damassés, des motifs floraux. Et on va retrouver ça notamment sur l'extraordinaire vêtement qui drape le bas du corps des deux gardiens, qui est extraordinairement conservé. Les deux sculptures ont été juste nettoyées. Et ces vêtements, hein, ils ont comme une sorte de lompagne, en quelque sorte, portent une bordure avec un décor végétal et animalier assez extraordinaire. Alors on a une chance à Paris, c'est que on peut voir les sculptures également de dos, ce qui n'est pas possible au Japon. Et on distingue en particulier sur le vêtement des deux gardiens des détails incroyables qui sont les décors des vêtements. Des phénix, alors le phénix est évidemment l'emblème de la Renaissance aussi, comme on le sait, dans un décor floral, ils sont travaillés en relief, et on a aussi une image assez précise des extraordinaires soieries, en fait, qui étaient fabriquées en Asie, on parle bien sûr de la route de la soie, là.
Là, c'est le 13e siècle, hein, Sophie
Montario. Voilà, on est à l'extrême fin du 12e ou au tout début du 13e, plutôt toute fin 12e, on va pas chipoter, hein, pour quelques années. Et on a en fait l'image de ces tissus qui sont conservés, qu'on connaît dans des tombes par exemple, tout le long de la route de la soie et jusqu'à l'Iran, ce qu'on appelle les draps d'or. Donc on peut imaginer que ces tissus étaient des draps d'or, des pani tartarici, comme on disait en Occident, qui arrivaient dans les trésors soit profanes, soit les trésors d'église en Occident, qui étaient des tissus extrêmement recherchés. Et en fait, c'est cette image de tissu extrêmement précieux que l'on a conservé en fait en trois dimensions, portée sur ces deux extraordinaires sculptures de gardiens. Alors elle frappe par la puissance de leur expression, la puissance du rendu de leur anatomie. Et qu'est-ce que ça amène à constater? Bah que toute notre histoire de la sculpture mondiale, en fait, elle a bien besoin d'être revue. Parce que on se dit, l'Occident a inventé, voyez, la description réaliste de l'anatomie, l'étude de l'anatomie. Et on se rend compte
que bien avant,
au Japon et déjà en Chine, parce qu'il y a une étude de l'anatomie, parce qu'il y a une grande tradition médicale aussi, on a une connaissance très pratique de la façon dont les muscles viennent se fixer sur un squelette, de la façon dont les veines se gonflent, où sont les artères.
On a
et
tout ça.
On est frappé de voir combien, par exemple, le réseau des veines et des artères est traité de façon à la fois réaliste, vous le disiez, et en même temps emphatique. Et ça ramène presque tout un univers d'images qu'on associe au Japon, qui est aussi bien plus près de nous, celui des mangas, par exemple. Par exemple, avec Goldorak. Voilà, ces imageries qui sont les images des dessins animés de notre enfance, elles ne naissent pas de rien. Elles s'ancrent aussi dans cette histoire de la sculpture et de la représentation du corps au Japon. Et je voudrais rappeler
le
que...
Le corps, pas seulement le corps, excusez-moi Sophie Macariou, mais aussi les expressions, le regard.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, ce qu'on apprend dans cette exposition au Musée Guimet, c'est que ces sourcils froncés, cette bouche grimaçante, ces muscles montrés d'une manière ostentatoire, c'est aussi pour imposer le respect, parce qu'ils sont gardiens.
Bien sûr. Ils tiennent à distance, hein. Ils sont destinés, je dirais, comme on dirait, c'est des figures apotropaïques qui sont destinées aussi à faire peur, à repousser par la peur et l'effroi. Quand on regarde les visages, on est sidéré, effectivement, de l'impression d'effroi que donnent ces deux visages avec des muscles extrêmement contractés. Ils sont terrifiants. Ils
et
sont
tout absolument ça réalisé terrifiants. Dans du bois, dans du cyprès japonais.
Dans du cyprès japonais, voilà.
Et qui se conserve, donc, on a la preuve.
Admirablement conservé. Il faut dire que ces temples, je dirais, c'est les premières structures de conservation. D'une certaine façon, ce sont les ancêtres de nos musées. Hein. Ce sont des lieux où on a admirablement conservé ces œuvres, conservées dans un pays où, encore une fois, on subit un très grand nombre de catastrophes. De très nombreux tremblements de terre. Un tremblement de terre, ça veut dire que toutes les lanternes se renversent. Dans un pays où on construit en bois, le Kofukuji, c'est la plus grande construction de bois au monde. Voilà. Donc il a été reconstruit, on a sauvé ces sculptures de nombreux incendies. On les a protégées. C'est-à-dire que ce sont des miracles de préservation. Et ce qu'il y a aussi d'assez émouvant, c'est de se dire que on a là des sculptures qui sont finalement en date très proches de deux sculptures magnifiques qu'on peut voir à Paris, qui sont l'Adam et Ève de la galerie des Rois de Notre-Dame de Paris, qui sont exposées au musée de Cluny. C'est pas inintéressant, si je peux recommander une balade à vos auditeurs, de faire un tour au musée Guimet, de voir ce qui se fait au Japon, et puis d'aller faire un tour chez mes amis du musée de Cluny, et de voir ce qui se fait en Occident au même moment dans une des très grandes capitales de l'Europe, à Paris, pour les sculptures de Notre-Dame de Paris.
Vous voulez dire quoi? C'était quoi votre conclusion à vous pour terminer ce
Alors, on est frappé par le fait qu'on est dans des univers incroyablement différents et que finalement, cette étude de l'anatomie, cette approche du réel d'une certaine façon, elle semble extraordinairement forte dans ce lointain Japon à la fin du XIIe siècle.
Et ce sont des chefs-d'œuvre quand même. Est-ce qu'on connaît les auteurs ou l'auteur de ces statues de ces sculptures, parce que c'est un assemblage de bois d'une finesse incroyable, Sophie Macariou.
Oui, alors on hésite, à vrai dire. Ces sculptures, on les rapproche de deux autres figures de gardiens, donc ceux-là font 1,54 m de haut, et on les rapproche de pièces qui font plus de 5 m de haut, qui sont également donc des figures de gardiens,
de la même époque.
Comme ça, l'anatomie très emphatique également, et qui sont dues à un très très grand sculpteur qui s'appelle Unkei, qui est le plus grand sculpteur de Nara. Alors, il y a beaucoup de débats. Ces pièces-ci ne sont pas signées, mais effectivement, elles sont extrêmement proches des deux très grandes sculptures de gardiens du Todaiji.
Merci beaucoup, Sophie Macariou. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nara, les trois trésors du bouddhisme japonais sont à voir jusqu'au 18 mars au Musée national des arts asiatiques. Guimet, c'est dans le 16e arrondissement à Paris. Merci, bonne journée.
Merci.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Place de la République, saison 2, Sonia Kronlund.
Place de la République, c'est la façon dont la République fonctionne ou pas dans trois institutions, trois services publics emblématiques. Place de la République, saison 2, c'est dans un commissariat à Auxerre, un hôpital à Amiens et une mairie à Marseille.
J'habite tout seul dans un appartement. Là, je suis hospitalisée, j'ai personne, je suis dans la misère.
Place de la République, chaque mercredi dans Les Pieds sur Terre à 13h30 et sur franceculture.fr. Voir le monde, au plus près, chaque jour à 17h, LSD, la série documentaire. Perrine Kervran.
De l'invention du bal public aux free parties dans les bois, en passant par les clubs selects de Montparnasse et les discothèques géantes avec laser, fumigène et boules à facettes, cette semaine, LSD vous entraîne sur le dance floor pour entrer dans la transe de la danse. Alors fermez les yeux, levez les bras bien haut et commencez à danser.
Une histoire des dance floors, LSD, la série documentaire, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Quelle consigne pour les procureurs à Paris face aux gilets jaunes? Une note interne leur demande d'être intraitables. Le syndicat de la magistrature, deuxième syndicat de la profession classé à gauche, y voit un danger pour les libertés individuelles. Nous y reviendrons dans un instant. Nous irons aussi à Londres où le chef de file des travaillistes, Jeremy Corbyn, brandit la menace d'un deuxième référendum sur le Brexit. Un report est également de plus en plus probable. Et puis, l'Algérie se prépare à connaître une nouvelle journée de manifestation contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Mais quels opposants pourraient l'affronter? Ils ne sont pas nombreux, vous l'entendrez. Le nouveau procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, réserve-t-il un traitement spécial aux gilets jaunes? C'est ce que laisse en tout cas entendre une note qu'il a rédigée et envoyée le 12 janvier dernier à tous les procureurs parisiens qui sont amenés à traiter des dossiers de gilets jaunes lors des permanences du samedi. Le texte y indique les suites judiciaires à apporter, Mathilde Lemaire.
Dans cette note, des conseils pratiques pour gérer la masse de travail quand des centaines de gilets jaunes sont placés en garde à vue en même temps. Mais certains points sont plus des consignes. Exemple, privilégier les levées de garde à vue le samedi soir ou le dimanche matin, même si les faits sont ténus, même s'il y a classement sans suite. Le but, clairement écrit, empêcher les interpellés, je cite, de retourner grossir les rangs des fauteurs de troubles. Il est aussi préconisé d'inscrire les gilets jaunes interpellés sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires, même s'il y a classement sans suite. Concernant l'enquête, il est demandé d'exploiter les vidéos de la préfecture de police seulement pour les faits graves ou contestés et d'éviter de reconvoquer les policiers interpelleurs. Vincent Charmoyau du syndicat de la magistrature.
Il y a une atteinte à la liberté individuelle lorsqu'on donne pour instruction de maintenir les gardes à vue sur des gens dont on sait qu'ils ne seront pas poursuivis et qu'on les maintient privés de liberté pendant plusieurs heures, voire pendant la nuit suivante, pour de pure nécessité de maintien de l'ordre. On est sur un détournement de l'objet de la garde à vue. De même, lorsqu'on demande un fichage sur des gens dont on sait qu'il n'y a pas d'infraction caractérisée. Ça fait écho à cette volonté de fermeté clairement affirmée par l'exécutif, et c'est quand même pas anodin et c'est pas en faveur de l'indépendance du traitement de ces dossiers.
Sollicité, le parquet de Paris n'a souhaité apporter aucun commentaire sur cette note interne.
L'attitude qu'a eu Ford est indigne d'un grand groupe professionnel. L'attaque est signée Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie s'est personnellement investi dans le dossier du site de Blanquefort en Gironde. Mais le constructeur automobile, Ford donc, refuse l'offre de reprise de cette usine. Elle va donc fermer en août prochain. Bercy cherche tout de même d'autres solutions pour relancer le site industriel qui emploie aujourd'hui 850 salariés. En bref, encore une seconde enquête vise Luc Besson pour agression sexuelle. Hier, nous avions appris que la première plainte pour viol contre le réalisateur avait été classée sans suite. Plus l'échéance du 29 mars approche, plus le Brexit ressemble à un gigantesque casse-tête. Plusieurs dirigeants européens évoquent désormais publiquement l'hypothèse d'un report de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. À Londres, par ailleurs, un tabou est brisé, celui du second référendum. C'est le principal responsable de l'opposition, Jeremy Corbyn, qui l'envisage, Antoine Géniaud.
Après 2 ans et demi d'immobilisme, c'est la première fois qu'il évoque le sujet publiquement. Le chef du Parti travailliste se présente comme le dernier rempart face à la politique catastrophique, dit-il, menée par la Première ministre. Nous allons déposer, explique Jeremy Corbyn, un amendement pour proposer aux députés une sortie en douceur de l'Union européenne, avec la possibilité pour le Royaume-Uni de rester dans une union douanière. Et si ça ne fonctionne pas, nous réclamerons officiellement un deuxième référendum. Référendum qui pourrait proposer aux Britanniques d'annuler purement et simplement le Brexit. Dans les rangs travaillistes, le maire de Londres applaudit, comme plusieurs hauts responsables du parti. Mais d'autres élus des Midlands, du nord de l'Angleterre et du Pays de Galles crient à la trahison. Jeremy Corbyn, déjà mal à l'aise dans son costume de chevalier blanc de l'Union européenne, va donc probablement devoir, pour faire passer son idée, s'allier avec les conservateurs europhiles en se coupant d'une partie de son électorat.
Antoine Géniaud, correspondant à Londres de France Culture. Partons maintenant en Algérie où un nouvel appel à manifester a été lancé pour aujourd'hui mardi dans les universités cette fois. Une mobilisation contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Hier, le premier ministre algérien Ahmed Ouayaya a estimé que c'était aux urnes de décider s'il y avait ou non un cinquième mandat du président. Mais face à Abdelaziz Bouteflika, aucun candidat ne semble tenir la corde, Leïla Berato.
Le vainqueur à l'applaudimètre, ce serait évidemment Rachid Nekkaz. Ce franco-algérien de 46 ans, deux fois candidat à la présidentielle en France, est une star des réseaux sociaux. Il est très apprécié d'un public assez jeune qui aime sa proximité avec la population. À chacun de ses déplacements, une foule considérable se déplace pour l'accueillir. Parmi les 200 et quelques personnes qui se sont déclarées candidates à la candidature, il y a aussi des chefs de partis politiques, comme Abderzak Makri, le leader du principal parti islamiste, ou Ali Benflis, ancien chef de gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika et ancien candidat à la présidentielle. Mais ces deux hommes, comme d'autres, réfléchissent encore à l'attitude à adopter, alors que Abdelaziz Bouteflika est officiellement candidat. Personnage inconnu il y a quelques mois, c'est un militaire, Ali Rediri, 64 ans, général-major à la retraite, qui s'est imposé dans le débat public. Après s'être opposé dans la presse au chef de l'état-major, Ahmed Gaït Salah, il s'est entouré de figures militantes connues comme l'avocat Mokran Aït Larbi. Mais des militaires qui font parler d'eux avant la campagne, puis qui disparaissent de l'espace public, il y en a eu d'autres au précédent scrutin. Il reste aujourd'hui jusqu'au 3 mars à tous les candidats pour déposer leur dossier auprès du Conseil constitutionnel.
La présidentielle aura lieu le 18 avril prochain. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohamed Javad Zarif, démissionne. Considéré comme un modéré, il avait joué un rôle important pour l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015. Mais depuis que Donald Trump a dénoncé cet accord en mai dernier et que des sanctions ont de nouveau été imposées à l'Iran, Mohamed Javad Zarif est la cible des ultra-conservateurs dans le pays. On ignore encore si le président iranien Hassan Rouhani acceptera cette démission. Troisième conférence des donateurs sur le Yémen ce mardi à Genève. L'objectif est toujours de recueillir suffisamment d'argent pour garantir une réponse humanitaire dans ce pays ravagé par la guerre. On estime que 80% de la population yéménite a besoin d'aide, soit 24 millions de personnes. Et chaque année, le plan d'intervention humanitaire pour le Yémen est révisé. Les besoins sont affinés. Ce qu'il finance ne sont pas forcément ceux auxquels on pense, Valérie Crova.
Les Nations Unies ont reçu l'année dernière près $1 milliard de la part de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Paradoxe de cette guerre où les acteurs du conflit sont aussi les principaux bailleurs de fonds de l'aide humanitaire. L'armée émiratie est en effet engagée au sein de la coalition sous commandement saoudien, accusée de bombarder la population civile yéménite. Certaines ONG se refusent à une telle compromission. Maud Belon est directrice du programme de handicap international au Yémen.
Handicap personnel ne prend pas les fonds de l'Arabie Saoudite et donc on s'impose nous de faire une restriction des financements qu'on va accepter. Donc quand un bailleur nous sollicite ou quand nous on sollicite un bailleur, on fait en sorte qu'on soit bien renseigné avant et on n'accepte pas les fonds comme ça.
Lors des conférences des donateurs, des ONG éviteraient même de se retrouver face à des représentants saoudiens. En 2015, Riyad a créé un centre du nom du roi Salman qui, selon un autre acteur humanitaire, finance en grande partie les agences onusiennes comme le Programme alimentaire mondial. Les fonds récoltés ont permis au PAM d'augmenter de manière significative le nombre de ses bénéficiaires au Yémen, passé de 8 à 12 millions de personnes par mois.
Kim Jong-un est arrivé au Vietnam cette nuit après un long voyage en train. Le dirigeant nord-coréen doit y retrouver dans la journée l'américain Donald Trump pour un deuxième tête-à-tête consacré toujours à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Penchons-nous à présent sur une pratique que certains imaginaient oubliée, interdite même en Belgique. Et pourtant, les médecins belges avaient jusqu'à présent le droit de délivrer des certificats de virginité qui voulaient prouver en quelque sorte que l'hymen d'une femme était intact. L'Organisation mondiale de la santé a demandé au pays d'interdire cette pratique qui existe encore également au Sri Lanka, en Jordanie, Afghanistan, mais aussi en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et donc en Belgique, Margot Steve.
Et c'est grâce au texte de l'OMS que l'Ordre des médecins belges s'en est rendu compte. Un oubli qui a beaucoup surpris le vice-président de l'Ordre, Jean-Jacques Romboutz.
Je ne m'attendais pas à ce que la Belgique soit signalée parmi les rares pays où il n'y avait pas eu de décision du législateur sur le sujet. C'est une omission, on ne va pas dire que c'est une négligence, parce que la négligence comprend une notion fautive, mais enfin je pense qu'en tant qu'ordre des médecins, nous regrettons que des choses pareilles n'aient pas été interdites plutôt en Belgique.
L'ordre a donc émis un avis pour condamner cette pratique que les médecins estiment injustifiée.
Tout d'abord, ce n'est pas scientifiquement certain, donc on ne peut pas affirmer avec certitude, compte tenu des variations anatomiques, qu'une jeune femme est vierge. Le deuxième point, c'est une discrimination entre les hommes et les femmes, puisque l'absence d'antécédents de rapport sexuel ne peut pas être déterminée chez l'homme. Enfin, c'est une agression vis-à-vis des jeunes filles qui n'ont rien demandé à personne et qu'on envoie chez un médecin. Ça n'est pas quelque chose d'anodin sur le plan du vécu émotionnel de ces jeunes femmes.
Désormais, les médecins qui continuent à pratiquer ces tests de virginité pourront donc être sanctionnés par l'ordre des médecins, mais pas par la loi. Un texte dans ce sens avait été présenté devant le Sénat en 2010, mais n'avait pas été adopté.
Les vitesses sont abaissées de 20 km/h sur certaines routes de France. La faute à un pic de pollution ce mardi en Île-de-France, dans le Rhône et le Pas-de-Calais, car les particules stagnent en l'absence de vent et de nuages. Aujourd'hui, le temps s'annonce encore ensoleillé avec des températures plutôt élevées pour la saison. Il fait 9 degrés ce matin à Strasbourg, Lille, Nantes et Paris, 11 degrés à Bordeaux, jusqu'à 16 degrés à Nice. À 6h40, nous vous retrouvons, Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Pour votre journal des idées. Et pour commémorer les 80 ans de la Retirada, l'exode à la fin de la guerre civile, le chef du gouvernement espagnol s'est rendu dans le sud de la France ce dimanche. Et ce Jacques dans l'indifférence générale.
Ouais, pas de présence officielle, si ce n'est un préfet. Et pas d'écho dans la presse, sinon régionale. Pedro Sánchez a rendu hommage à Manuel Azaña, le dernier président de la République espagnole, au cimetière de Montauban, au poète Antonio Machado à Collioure et à ses compatriotes venus mourir sur la plage d'Argelès. Dans son blog de Mediapart, Françoise Dubosquet dénonce cette occasion manquée de revenir sur l'attitude de notre pays dans cet épisode peu glorieux de son histoire, depuis la farce de la non-intervention jusqu'à l'ouverture des camps. Pourtant, dans cet hommage, le premier depuis la mort de Franco, d'un gouvernement qui honore la mémoire de tout un peuple et augmente le SMIC de façon notable, ne méritait-il pas quelques secondes de notre temps, demande-t-elle. Une revue de presse peut être traversée par des courants d'air. Celle de Claude Ascolovitch, notre confrère, hier sur France Inter, souligne l'honneur de la Dépêche du Midi dans le silence médiatique, son éditorial et l'entretien avec le chef du gouvernement espagnol. La revue Le Mouvement Social publie un article de Célia Kéren sur l'accueil des enfants d'Espagne organisé par la CGT de 1936 à 1939, témoin de l'engagement du mouvement ouvrier français dans cette opération humanitaire. Pour les syndicalistes, elle n'allait pas de soi. S'investir dans des tâches et des préoccupations assez éloignées de leur mode d'action habituel, en s'inquiétant notamment de placements en famille, de scolarisation et de maisons d'enfants, mais aussi d'achats de souliers, de cas de rougeole, d'enfants insupportables et de sexualité des jeunes filles. Une cause qui met en lumière les difficultés pour une organisation syndicale aux ressources affaiblies par la grève générale de novembre 1938. Dans la même livraison de la revue, Nicolas Delalande analyse la situation. Capable de lever des fonds, de constituer des réserves et de soutenir des grèves de plus en plus longues, les organisations ouvrières ont vu dans cette mission humanitaire un impératif moral et une nécessité stratégique. C'est le principe de solidarité qui s'illustre dans l'aide aux grévistes et à leurs familles à travers notamment la pratique dite de l'exode des enfants. Dans un livre qui vient de paraître au Seuil sous le titre « La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières », Nicolas Delalande en éclaire la signification depuis les origines de la mobilisation ouvrière. Une famille d'adoption se substitue à la famille biologique le temps que les ouvriers mènent la lutte et résistent aux stratégies d'appauvrissement déployé par le patronat. L'objectif est à la fois de soulager les comités de grève, de bouche à nourrir, tout en élargissant le périmètre d'action de l'entraide ouvrière. L'adoption symbolique vise à construire une communauté d'émotions et une solidarité de destin. Le livre retrace dans le détail l'émergence d'une solidarité transnationale dans les années 1860 autour de l'Association internationale des travailleurs, appelée plus tard Première internationale, à une époque où, avec l'abaissement des coûts de transport et l'intensification des migrations, les ouvriers se livrent une concurrence inédite que les patrons de l'industrie et de l'artisanat exploitent à leur profit. Mais si ce contexte favorise l'émergence d'une solidarité de position, cela n'implique pas qu'existe une solidarité de revendication et d'action, d'autant que, des socialistes aux anarchistes, l'éventail des options politiques des syndicalistes est large. C'est donc cette notion de solidarité qui va constituer l'élément fédérateur et elle s'appuie sur des ressources, notamment économiques. Au-delà d'un vif débat sur la gestion des fonds, comment lutter contre le capital sans argent, mais comment accumuler et transférer ces fonds sans recourir aux institutions du capitalisme, cotisations, dons, etc., vont financer les activités de l'organisation, ses congrès, ses journaux, ses travaux, notamment l'établissement d'une statistique du travail, des prix et des salaires, et surtout alimenter des caisses de grève, en plus des levées de fonds exceptionnelles, comme celle des ouvriers de Berlin, pour venir en aide aux tailleurs de Londres, par principe de solidarité. Cette histoire mouvementée, chaotique parfois, mais riche en débats essentiels, toujours menacée par le pouvoir, montre qu'il y a une alternative à l'opposition stérile entre libéralisme inégalitaire et repli nationaliste, et que la solidarité est à la fois une pratique et une culture. Dans les pages Idées de Libération, Anne-Laure Delatte évoque une étude américaine qui montre que d'anciens révolutionnaires allemands, réfugiés aux États-Unis après 1848, ont su mobiliser autour d'eux des volontaires dans la guerre de sécession et le combat anti-esclavagiste dans des proportions très largement supérieures à la moyenne nationale. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Alors au sommaire des enjeux, l'Irak, on part avec vous en Irak, mais via Marseille.
Via Marseille, oui c'est ça, on rejoindra Myriam Benrat. Bonjour Myriam Benrat. Merci d'être au téléphone, vous êtes chercheuse à l'IRMAM. Alors c'était effectivement la visite du président irakien Barham Saleh, toujours aujourd'hui, d'ailleurs deux jours en France, reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron hier. Il annonce lui-même, Emmanuel Macron, son propre déplacement en Irak dans quelques mois pour ce pays qui a vocation à retrouver un rôle de premier plan, dit-il, dans la région, un rôle de pivot régional au bénéfice de qui ? On voit ça avec vous dans votre dernier livre, Myriam Benrat, l'Irak par-delà toutes les guerres, au Cavalier Bleu. Vous soulignez que l'Irak, c'est aussi ce terrain de lutte d'influence. À pivot, c'est parfois la même chose. Là, c'est la première visite du président Saleh en Union européenne, je crois. Qu'est-ce qu'il vient chercher en France ? Une porte d'entrée vers l'Union européenne ou une réassurance des liens bilatéraux ?
Je pense que c'est un peu les deux. Bon, c'est une visite symbolique parce qu'effectivement, on est dans une phase où les autorités irakiennes, l'élite politique a besoin de se légitimer fortement en interne. D'ailleurs, de ce point de vue, j'aimerais préciser que le gouvernement irakien n'a pas fini d'être formé encore aujourd'hui. Donc, on n'est pas totalement sorti de la crise, mais il est évident que par cette visite qui a été précédée par un balai diplomatique intensif, avec beaucoup de visites de chefs d'État et de représentants à Bagdad, cette visite, elle est clairement symbolique et encore une fois une quête de légitimité de la part des Irakiens. Alors au niveau de l'Union européenne, pourquoi ? Parce que l'Union européenne, il y a des années en fait, hein, qu'il est question de signer un accord qui permettrait à l'Union européenne d'investir, de lancer des partenariats beaucoup plus substantiels que ceux qui existent à présent. Donc là, il y a quand même des enjeux financiers pour les Irakiens aussi, ouais. Parce qu'il y a une politique de voisinage, je rappelle, dont s'est dotée l'Union européenne et qui fait que l'Irak pourrait rejoindre le groupe des pays concernés. Et puis du point de vue de la France, bon, la France est un allié de l'Irak. Ça ne date pas de la présidence Macron. Il y a une volonté de raffermir les liens, à la fois sur le plan militaire, parce qu'évidemment la France a contribué et continue de contribuer à la lutte contre l'État islamique sur le terrain, et puis économiquement, il y a des enjeux avec tout le processus de reconstruction qui doit aujourd'hui s'amorcer.
Oui, ouais, beaucoup d'enjeux, des enjeux de reconstruction, notamment financiers, on va en reparler. Juste, il y a cette question, dont il sera question d'ailleurs dans la matinale, hein, de la sous-traitance des procès de djihadistes, si on peut s'exprimer ainsi, par l'Irak, les procès français. Il y a eu des questions sur une négociation. Le 7 février, c'était Hicham Al-Hashemi, ce spécialiste irakien, qui déclarait que tout avait été négocié, je cite, au plus haut niveau, dans le plus grand secret, et qu'il y aurait une contrepartie pour le gouvernement irakien en armes ultra-modernes et importants équipements militaires. Est-ce que c'est avéré, ces négociations ?
C'est dur à dire, mais il y a eu quand même, je dirais, quelques signes qui ont été donnés par Emmanuel Macron lorsqu'il a tout de même insisté sur l'aide que la France continuerait à apporter par le biais notamment de nos forces spéciales aux Irakiens, à l'armée irakienne, aux forces de sécurité. Donc quand il parle de formation, ça va aussi évidemment de pair avec effectivement la question de l'armement.
Et de ce point de vue, l'Irak s'est doté dans les dernières années d'armements particulièrement sophistiqués, français et d'autres pays. Maintenant, il faut tout de même préciser qu'au niveau irakien, le jugement de ces djihadistes, même si en l'espèce on peut considérer qu'il y a eu effectivement un accord avec la France, les Irakiens dans l'absolu se considèrent compétents. À partir du moment où des combattants ou des djihadistes sont passés par son territoire, se sont rendus coupables de crimes sur son territoire ou attaqué des infrastructures, des installations ou porté préjudice à l'Irak, les Irakiens, la justice irakienne se considère compétente. Mmh. Donc ça c'est quand même important. Et ça va aussi de pair avec cette idée, comme je l'ai dit, de se relégitimer aux yeux de la communauté internationale, donc de renvoyer l'image d'un Irak fort qui est capable de maîtriser cette menace.
Oui, c'est ça, avec une réhabilitation, effectivement, via ces procédures judiciaires et une loi irakienne qui est assez large parce que, effectivement, ce sont toutes les personnes qui ont apporté un soutien matériel à une organisation extrémiste qui sont passibles de la peine de mort, si je ne me trompe pas.
Oui, alors la peine de mort, bon, il faut quand même nuancer. La peine de mort, c'est généralement les combattants, donc des personnes qui ont été vraiment actives dans les rangs de l'État islamique, les services de renseignement irakiens sont très informés, donc des preuves qu'ils ont été effectivement impliqués dans des atrocités, des crimes contre notamment des citoyens irakiens. Après, ceux qui n'ont pas été impliqués directement dans les combats, donc qui ont joué, je dirais, des rôles plus subsidiaires, écope de peine tout de même très lourde comparé à ce qui attendrait les djihadistes en France. L'Irak pratique une justice extrêmement sévère envers l'ensemble des membres, des anciens membres de l'État islamique.
Oui. Alors, si on revient à la relation sur le temps plus long et puis à la coopération militaire, la France est le deuxième contributeur de la coalition. Je crois qu'il y a 1200 soldats qui sont sur place. Antoine Basbous, là, sur France Info, parlait hier de cette relation renforcée, d'une certaine dose de bon sens face à la réactivation de la guerre froide. Il disait par Donald Trump. Est-ce que ça vous semble justement une des choses que vient rechercher encore une fois Barham Saleh, disons une réassurance française face à ce qui semble une Amérique chancelante ou plutôt, disons, agressive face à l'Iran, comme l'avait dit Donald Trump?
Oui, alors il y a plusieurs choses. Bon, d'une part, il faut quand même préciser que les Irakiens recherchent ce rééquilibrage en termes de relations diplomatiques et de partenariat stratégique depuis des années. Mmh. C'était déjà le cas du temps de l'occupation américaine. Les Irakiens, l'élite irakienne tentait de s'émanciper en se rapprochant notamment des Européens. Bon, ça a été beaucoup plus le cas après le retrait américain et ça l'est d'autant plus aujourd'hui qu'on a effectivement une administration américaine qui est chancelante, au mieux instable, plutôt aux yeux des Irakiens. On a un fort sentiment aussi anti-américain en Irak. Je précise tout de même qu'une partie des milices chiites ont déclaré récemment qu'une présence américaine sur le long terme exposait potentiellement les États-Unis à une nouvelle insurrection là du côté chiite.
Oui, et que le Parlement tente de voter une loi pour expulser les États-Unis d'ailleurs.
Pour expulser les États-Unis, donc il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'il y a eu réengagement contre l'État islamique, mais tout de même la relation irako-américaine est très fragile, très sensible. Donc il y a de toute façon depuis des années cette envie de se rapprocher d'autres pays, et la France et l'Irak, de ce point de vue, ont, je le rappelle, au-delà de l'occupation américaine qui a eu lieu dans ce pays et des différentes batailles plus récentes, la France et l'Irak ont une longue histoire diplomatique. Il y a beaucoup de coopération entre ces deux pays, des projets dont on n'entend pas beaucoup parler, par exemple sur le plan institutionnel, le Parlement irakien est aidé au premier plan par les Français, dans la lutte anticorruption aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent dont on n'entend pas parler, mais qui font que il y a des liens très forts entre ces deux pays.
Oui. Juste un mot sur l'attitude de Donald Trump, est-ce que vous pensez que, puisque vous avez cité effectivement les menaces des deux milices, celles qui s'appellent les brigades du Hezbollah et puis les milices Asaïb al-Haq, la Ligue des Vertueux, est-ce que son attitude est un danger pour les États-Unis, voire pour l'Irak lui-même, dans une situation un peu compliquée là?
Il y a deux choses. La question de la normalisation de ces milices, qui de toute façon là revient au gouvernement irakien alors qu'il est toujours dans le processus de refonte, de reconstitution d'une armée, d'un appareil sécuritaire, je dirais, national. Et ça, c'est quelque chose que seuls les Irakiens peuvent véritablement faire, avec évidemment la coopération de l'Iran, puisque l'Iran reste un acteur de premier plan en Irak, qu'on le veuille ou non. Et ça, de ce point de vue, ça va être difficilement remis en cause, au-delà des menaces qui ont été faites par Trump et d'autres pays. Maintenant, au niveau des menaces, ces menaces, elles sont à prendre très au sérieux, à mon avis, parce qu'encore une fois, ce sont des groupes qui, par le passé, ont combattu les Américains et qui n'auront aucune retenue si cette présence américaine s'étend dans la durée.
Et avec un Iran qui peut-être va durcir sa politique étrangère, parce qu'on a prôné la démission du ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif, hier soir. Du côté de l'Irak, on voit que Bagdad a été très courtisé aussi en début d'année. Il y a eu la visite de Giuseppe Conte, la première visite également du roi d'Espagne, Felipe VI, première depuis 40 ans. Qu'est-ce que là l'Irak peut escompter? Est-ce que c'est plutôt des visées très pragmatiques avec l'Italie, puisque il y a eu aussi la visite du ministre de l'énergie, des questions énergétiques importantes, et l'Espagne, plutôt une réintégration symbolique, c'est un peu ça?
Chaque pays, je dirais, au plan bilatéral, a ses priorités. Les Italiens ont des intérêts pétroliers en Irak, donc il y a l'aspect économique qui, évidemment, était au premier plan de cette visite, mais pas seulement, puisqu'on n'a pas parlé beaucoup de patrimoine, ce qui fait sens, puisque l'Italie a un rôle de premier plan dans le sauvetage et la préservation du patrimoine, et une véritable expertise dont les Irakiens ont besoin. Donc, de ce point de vue, c'était intéressant aussi de voir que ça a été très mis en valeur. Quant à l'Espagne, l'Espagne, c'est surtout sur le plan militaire, parce que l'Espagne a des troupes en Irak. L'Espagne, je le rappelle, a participé à la guerre d'Irak, donc à une présence militaire en fait en Irak maintenant de long terme, des forces spéciales. Donc là, il était plutôt question, alors que l'Espagne, par ailleurs, continue de faire face à la menace terroriste, de discuter des moyens de renforcer cette coopération militaire et des moyens pour l'Espagne d'aider, d'ailleurs tout comme la France de ce point de vue, les autorités irakiennes à renforcer cette armée, ces forces de sécurité qui ont repris le dessus partiellement, mais qui aujourd'hui doivent être consolidées.
Bon, et toute dernière chose, on aura l'occasion d'en faire un sujet unique, mais la reconstruction, Barham Saleh était à l'UNESCO également hier pour parler de Mossoul. Il y a un projet qui concerne Mossoul spécifiquement, également une conférence qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, dans laquelle il était question de pouvoir remplir les 88 milliards de dollars de demandes pour la reconstruction irakienne. Il y a 30 milliards qui ont été jusqu'ici promis. Est-ce que cette reconstruction vous semble en bonne voie, pour le dire comme ça? Allez.
Il y a beaucoup de promesses, des conférences internationales, etc. Maintenant, en bonne voie, je ne sais pas, parce que, si vous voulez, il y a des promesses financières qui sont faites. Il faut voir ce que ça donne après en termes de d'aide concrète. Et par ailleurs, la vraie question, c'est la volonté aujourd'hui des élites irakiennes de mettre en œuvre ce processus de reconstruction qui est partiellement bloqué. Oui, mais qui est bloqué du fait des désaccords politiques qui perdurent. D'ailleurs, de ce point de vue, les déclarations qui ont été faites par l'envoyé spécial des Nations Unies en Irak, elles sont très pertinentes, à mon avis, de mettre en avant les blocages politiques et institutionnels à cette reconstruction. C'est la vraie question, en fait, et ça fait surtout des années que ça dure et que beaucoup de projets sont gelés du fait de ce factionnalisme politique qui règne en maître en Irak.
Oui, comme je disais, on aura l'occasion d'y revenir plus longuement sur cette reconstruction. Mais merci beaucoup pour vos explications ce matin, Myriam Benrat, chercheuse à l'IRMA. Mais on renverra bien sûr à votre livre, L'Irak, par-delà toutes les guerres, c'est au Cavalier Bleu. Bonne journée.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des précautions simples peuvent être adoptées. En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, courbature ou grande fatigue, restez si possible chez vous et évitez les contacts avec les personnes fragiles comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin traitant si nécessaire. Ne vous rendez pas aux urgences sans avis médical et contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
France Culture présente Fahrenheit 451, un concert fiction adapté du célèbre livre d'anticipation de Ray Bradbury. Dans une société du futur où les pompiers brûlent les livres et où la lecture est considérée comme un acte antisocial, le héros, Montag, se prend à rêver d'un monde différent et rejoint la résistance des hommes livres. Avec notamment Judith Chemla, André Wilms et Pascal Rénéric.
Fahrenheit 451, samedi 2 mars à 20h30 à la Maison de la Radio à Paris. Programme et réservation, maisondelaradio.fr ou 01 56 40 15 16.
Et 6h59 sur France Culture, c'est l'heure des matins avec Florian Delorme. Bonjour Florian.
Bonjour Xavier Martinet. Et vous en parliez à l'instant, Xavier. Hier, le nouveau président irakien Bahram Saleh effectuait sa première visite en France. Il a rencontré son homologue français. Au cœur des discussions, la lutte contre l'État islamique désormais confiné dans la ville de Baghouz, où se sont retranchés les derniers combattants, mais aussi la question des transferts des djihadistes français vers la France. Sur quoi se sont mis d'accord les deux chefs d'État? Comment va-t-on organiser leur rapatriement? Et comment compte-t-on gérer ici leur prise en charge, et notamment par la justice? Chute de l'État islamique, que faire de ces combattants? On recevra en première partie Gilles Kepel, et puis le rejoindra dans une seconde partie, Mathieu Delahousse. Il vient de signer un ouvrage, La Chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français. Ce sera tout à l'heure, donc en deuxième partie. Pour l'heure, bon réveil à tous, il est 7h, vous écoutez France Culture.